Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, où notre lecture commencera au verset 5. Matthieu, chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est sur une partie du verset 12 que nous voulons nous étendre un petit peu. Lorsque le Seigneur Jésus prononce ces paroles, qu'il parle des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Savez-vous que cette expression nous est rapportée 7 fois dans les évangiles, 6 fois dans Matthieu, 1 fois dans l'évangile de Luc. On trouve ce même avertissement qui sort de la bouche du Seigneur avec à chaque fois quelque chose de particulier à nous apprendre ou à nous rappeler. Vous savez, il n'y a personne qui nous a autant aimés que le Seigneur Jésus. Et je dirais, de très loin, personne qui nous a autant aimés que lui. Et pourtant, il n'y a personne qui a autant parlé de la perdition éternelle et de l'enfer dans toute la Bible que Jésus. C'est lui qui en a le plus parlé, quand vous lisez les évangiles. Alors certains me diront, il y a une contradiction, mais non, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, si vous aimez quelqu'un et que vous voyez qu'il est devant un péril, vous n'allez pas le laisser aller dans le péril. Vous allez évidemment l'avertir. Et c'est Jésus donc qui fait cela. Dans son amour, nous avertit de cette réalité. Cette réalité qui est hélas bien présente et qui est voilà, la conséquence de, je ne vais pas rentrer dans le détail, du péché, etc. Voilà. Donc, mais nous voulons considérer la raison dans notre premier texte pour laquelle les fils du royaume, ou du moins un certain nombre d'entre eux, seront jetés dehors. Eh bien, la réponse est simple, dans notre texte, c'est parce qu'ils n'ont pas une foi semblable à celle du centenier. Ce passage nous rappelle, ou nous apprend, que pour être sauvé, la foi est nécessaire, la foi est indispensable, mais pas n'importe quelle foi. Une foi comme celle du centenier. Lorsque vous voyez la foi du centenier, vous voyez 2 caractères principaux. Le premier, c'est son humilité. Cet homme est humble, il a une foi humble. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Voilà. Et puis une deuxième chose, c'est une foi obéissante. Et il le dit, mais dis un mot simplement. Parce que moi qui suis un militaire, eh bien, il y a une hiérarchie chez nous. Hein. Donc si je dis à mon soldat « va », il va, il ne discute pas, il va poser des questions. « Ah, pourquoi ceci, cela ?» Non, non, il va, il obéit. La discipline, c'est la force principale des armées. C'est ça qu'on dit. Et c'est une réalité. C'est vrai. Vous savez, ce n'est pas un hasard, je pense. Si l'homme dont Jésus a dit qu'il avait la plus grande foi, c'était un centenier. Et le premier païen qui a été baptisé du Saint-Esprit, c'était aussi un centenier. Hein ? Donc ça insiste sur l'importance de l'obéissance. Et une foi qui présente ces 2 caractères, l'obéissance à la parole du Seigneur et cette humilité, c'est celle-là qui nous fait pénétrer dans les cieux. Et aucune autre foi que celle-là nous fait pénétrer dans les cieux. Et je crois qu'il faut toujours, pour garder notre humilité, que nous nous souvenions de la boue d'où nous avons été tirés. Parce qu'il y en a certains d'entre nous, ils ont été tirés franchement d'une fosse vraiment profonde. Et s'il n'y avait pas eu la puissance et la grâce de Dieu, je ne sais pas où ils seraient aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui disent « Ah, ben moi, je n'ai pas été tiré de là. » Oui, mais dis-toi une chose, s'il n'y avait pas la grâce prévenante de Dieu, s'il n'y avait pas, lorsque Paul dit qu'il était le premier d'entre les pécheurs, le pire d'entre les pécheurs, alors on n'a pas fait autant de mal que lui, vous savez, mais on aurait été absolument capable de faire pire, sauf la grâce de Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité pour chacun d'entre nous. Et il faut que nous sachions cela. Il faut que nous connaissions cela. Vous savez, même dans les églises, on peut trouver des gens qui se donnent une apparence d'humilité, mais en réalité, il y a encore un orgueil qui est là, bien caché dedans. Je racontais cette petite anecdote, c'est l'histoire de cet étudiant très ambitieux qui suivait les cours d'une université connue pour le haut niveau de compétition qui régnait en son sein. Il était sur le point de commencer sa dernière année d'études lorsqu'il a fait connaissance d'un gourou. Un gourou qui venait d'Extrême-Orient et qui lui a dit « Ne te rends-tu pas compte que ton esprit est pollué chaque jour un peu plus par cette philosophie qui consiste à toujours rechercher le succès, quoi qu'il en coûte. Ton idée du bonheur est sans doute de travailler d'arrache-pied, d'étudier le plus possible afin d'obtenir une place supérieure à ton voisin de cours. Tu n'es pas fait pour vivre ainsi. Viens nous rejoindre !» Nous vivons dans une communauté où nous partageons tout et où l'amour règne entre nous. Voilà. Pensant avoir trouvé sa vérité, cet étudiant appela ses parents et leur annonça qu'il avait décidé de laisser tomber ses études pour aller vivre dans cette communauté. Vous imaginez la réaction des parents. Voilà. 6 mois plus tard, il leur envoya la lettre suivante. Cher papa et maman, je sais que vous avez été déçus de ma décision, mais je tiens à vous dire que cette décision a changé ma vie du tout au tout. Pour la première fois, je suis en paix avec moi-même. Ici, personne ne cherche à supplanter l'autre. Personne ne tente de l'emporter sur son voisin. Ce mode de vie est tellement en accord avec ma manière de penser qu'en seulement 6 mois, je suis devenu le disciple numéro 2 de toute la communauté. Et j'espère, avant le mois de juin, être devenu le disciple numéro 1 du maître. Bravo pour l'absence d'esprit de compétition. Voilà. Vous savez, si on cherche à faire au mieux parce qu'on veut plaire au Seigneur, eh bien, béni soit le Seigneur. Mais prenons garde à ce désir de supplanter l'autre. Hein. Rappelez-vous que les disciples se sont disputés un moment pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il leur a coupé leur discours, il leur a coupé les pattes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait asseoir et puis il a commencé à leur laver les pieds. Vous vous souvenez, hein. Il a dit, le plus grand d'entre vous, ce sera votre serviteur. Et il l'a démontré. Et il l'a démontré jusqu'à la croix. Une foi humble et obéissante, c'est ça qui nous gardera dans la voie du salut et qui fera que l'entrée dans le ciel de gloire nous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alors ayons à cœur de nous soumettre à Dieu. Comptons sur cette immense grâce que le Seigneur... Vous savez, c'est toujours par la grâce. Tout s'obtient par la grâce. Même quelqu'un d'aussi... terriblement, affreusement religieux que Louis XIV. Louis XIV, franchement, lui, c'était, je pense, le roi de France. En tout cas, c'est déjà le plus grand persécuteur de chrétiens qu'on ait eu, hein, parce qu'il a beaucoup persécuté des croyants. Et puis, en plus, c'est celui qui a dépensé tout l'argent de la caisse et qui a amené à la Révolution française. Voilà, bon, bref. Louis XIV, c'était quelqu'un très de bigot, d'extrêmement bigot, mais il était quand même capable de comprendre cette réalité de la grâce. Parce qu'un jour, il nous a raconté qu'il a reçu une importante somme d'argent et il se doutait bien que ses courtisans la convoiteraient et espéreraient faire partie des bénéficiaires. Voilà. Et pour connaître ce que ces courtisans pensaient en faire, il a fait étaler toutes ses pièces d'or sur une grande table, là, et puis il a réuni tous les membres de sa cour autour. Et puis il a dit, voilà, je désire donner cette somme aux plus méritants d'entre vous. Qu'en pensez-vous? Alors, eh bien, chacun a fait valoir ses mérites. Et l'un d'eux, par exemple, a décidé de rappeler qu'il avait consciencieusement entretenu à ses frais et pendant des années les drapeaux de la maison royale. Il y en a qu'un qui n'a pas dit un mot, c'était le chancelier. Et puis donc, le roi se tourne vers lui, lui questionne, lui demande « Est-ce que vous n'avez besoin de rien ?» Et voilà ce qu'a répondu le chancelier. « Si rien ne me manque, je le dois à votre générosité, majesté. » qui m'avait toujours comblé au-delà d'un quelconque mérite. Voyez-vous ? Et c'est ça qui a touché le cœur du roi, et c'est à lui que la somme a été accordée. Le cœur du roi a été touché, pourquoi ? Eh bien parce qu'il a vu que cet homme comptait sur sa grâce. Vous savez, quand nous comptons sur la grâce de Dieu, eh bien, c'est la bonne disposition. Et c'est à ce moment-là que nous avons cette foi humble et que nous avons cette foi obéissante tout en même temps. Amen. Amen. J'avance, mon texte suivant se trouve en Matthieu chapitre 13, du verset 36 au verset 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voilà, c'est très clair. Hein, vous avez vu qu'il est question d'ivraie et de bon grain. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui pendant longtemps ressemble beaucoup au blé. Au départ, elle ressemble au blé, et la différence se fait, et se fait nettement, lorsqu'il s'agit de produire du fruit. Parce que le blé produit un fruit utile et profitable, tandis que l'ivraie ne produit rien de bon. Et remarquez aussi le travail des anges. Où doivent-ils faire leur œuvre de nettoyage et d'arrachage de l'ivraie ? Dans le royaume du Fils de l'homme, est-il marqué au verset 41. Et dans ce passage, il nous est clairement enseigné qu'il y aura des membres du royaume du Fils de l'homme qui seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ou au moins des personnes qu'on a considérées comme des membres, qui se sont peut-être eux-mêmes cru des membres, et que même les anges ne sont pas parvenus à discerner au départ. Après, ils y sont arrivés, pourquoi ? Eh bien parce que l'ivraie aussi produit un fruit. Un fruit mauvais, mais un fruit tout de même. Et quel est ce fruit qui est décrit au verset 41 ? C'est les scandales et l'iniquité. Voilà. Et ceux qui produisent ces choses-là, la parole de Dieu nous dit, ben, ils se trouvent sur cette pente pour être de l'ivraie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de porter du jugement hâtif, du genre, je ne sais pas, tel frère ou telle sœur a été en scandale, donc il ou elle est de l'ivraie. Vous savez, il nous est tous plus ou moins arrivé d'être en scandale à quelqu'un. Nous avons tous plus ou moins pu tomber dans l'iniquité. Et nous remarquons que même les anges n'osent pas porter de jugement à ce sujet à ce moment-là, de peur de se tromper. Et même le Seigneur remet le grand nettoyage à plus tard. Ce n'est donc pas à nous de prendre ses décisions et de faire ses choix. Mais il nous est parlé de personnes dont la vie est en scandale et qui commettent l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce terrible péché ? Tout d'abord, il est d'autant plus terrible que si nous ne prenons pas garde, nous pouvons y tomber simplement en nous laissant aller. Par exemple, dans 1 Corinthiens 8, verset 13, il est question de scandale. Il est dit « Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Dans Matthieu 16, verset 23, « Arrière de moi, Satan, dit Jésus à Pierre, qui est en train de lui parler d'une manière tout à fait humaine et charnelle, et lui dit, « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et ainsi voyons-nous que pour éviter d'être une occasion de chute en vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, il est important que nous puissions être dans la même disposition d'esprit de l'apôtre Paul, qui voulait, qui vraiment avait à cœur que le plus grand nombre possible puisse être sauvé et qui agissait dans ce sens-là. Mais c'est dans Matthieu chapitre 18 et au verset 4 que se trouve le passage où Jésus met en évidence le plus clairement cette notion de scandale. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un peu ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'était égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Voilà. Et ainsi, apprenons-nous, d'après ce passage-là, que le scandale, c'est de ne pas recevoir un de ces petits qui croient en Jésus, de ne pas le considérer, de ne pas l'accueillir, de ne pas l'aimer. C'est de minimiser, de mépriser un seul d'entre eux. Et aussi, c'est de ne pas prendre une attitude radicale envers ce qui fait de nous un objet de scandale. Hein. Donc c'est ça, pour ça qu'il est question, il n'est pas question de s'arracher un bras ou s'arracher un œil, mais ça montre la position radicale qu'il faut prendre. Et ainsi, voyons-nous que c'est pas difficile de faire des scandales, en fait. C'est pas difficile de faire des différences. Hein, donc, manifestant voilà, nos préférences vis-à-vis de l'un, notre amour plutôt vis-à-vis de l'un plutôt que vis-à-vis de l'autre, c'est pas difficile de chercher un avantage propre plutôt que celui du plus grand nombre. Voilà. Et combien facilement on aurait tendance à vouloir faire l'œuvre de Dieu avec des pensées humaines, comme Pierre voulait le faire lorsque Jésus l'a repris avec force, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Voilà. Combien il est facile aussi d'être indulgent vers nos propres défauts, hein, alors qu'on a tant de difficultés à arracher ce qui nous pousse au péché. Voilà. Donc, pour éviter d'être en scandale, ce n'est pas compliqué en fait. Jésus le dit clairement. Il suffit, et nous y revenons comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il suffit d'avoir en nous l'amour des âmes. L'amour pour les perdus, l'amour pour les petits, l'amour pour notre prochain. Et ainsi, par là même, nous serons protégés d'être en scandale. Alors si on parle de l'iniquité, puisque c'était le deuxième aspect, le deuxième mot que Jésus cite, eh bien, on pourrait là aussi nous étendre en long en large sur ces dangers qui nous menacent. Nous n'avons pas le temps de nous étendre sur cela. Aussi, nous voulons simplement citer quelques passages. Matthieu 23, verset 28, lorsqu'il s'adresse à certains auxquels il reproche « Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité ». Où nous apprenons que l'iniquité est liée à l'hypocrisie. Après, lorsque Jésus prononce son discours du mont des Oliviers concernant la fin des temps, de Matthieu chapitre 24, il dit, entre autres, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et ainsi voyons-nous encore clairement qu'iniquité et amour sont deux choses opposées et que qui n'a pas l'un à l'autre. Voilà. Acte 8, verset 23, ça c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à Simon le magicien, qui prétendait mélanger les choses financières avec les choses de l'esprit, et il lui dit « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Et il lui explique que s'il ne se repent pas immédiatement, eh bien, cette iniquité l'enferme dans ses liens et qu'il ne va plus lui être possible à un certain moment d'être libéré de ces liens-là. Donc, voyez le péril de la chose. L'apôtre Jacques nous dit, chapitre 3, verset 16, « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Et il nous rappelle que ce passage nous rappelle donc combien souvent l'iniquité est un péché qui est commis par la langue. Avec la langue, nous pouvons faire le meilleur. Avec la langue, nous pouvons faire le pire. C'est très clair. Et c'est pour ça lorsque nous lisons ces choses, combien nous voyons la nécessité dans laquelle nous sommes d'être dépendants du Seigneur, d'être dépendants de lui, cherchant, comme il est écrit, non notre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Pour être rempli d'amour pour les frères, et ainsi pourrons-nous rejeter les occasions de scandale et ceux qui nous y poussent, et produire ce si précieux et si indispensable fruit de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur connaît nos cœurs, et il sait ceux qui se tournent vers lui, ceux qui se confient en lui, et il agit en eux pour leur faire produire de mieux en mieux ce fruit de l'esprit. Amen. Amen. J'en reviens à Matthieu chapitre 13, parce que notre troisième texte se trouve à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, voyez, là, ça se rapproche un petit peu de la parabole précédente. Là aussi, le travail des anges qui est décrit est comparable. Simplement, il nous est parlé de mauvais et de bons, de mauvais et de justes. Quelle différence y a-t-il entre les mauvais et les bons au niveau des poissons, par exemple? Les mauvais, c'est ceux qui sont immangeables parce qu'il y a trop d'arêtes ou parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont des espèces non comestibles. Les bons, c'est ceux qu'on peut consommer. Et dis-le, voilà. Et voilà. Et ça, c'est le Seigneur même qui nous donne son propre exemple et qui s'est laissé consommer par nous. D'ailleurs, lorsque nous prenons la Sainte Cène, eh bien, nous faisons simplement qu'obéir à l'ordre du Seigneur qui a dit que nous devons manger de son corps et boire de son sang, de manière spirituelle, évidemment. Mais en tout cas, il nous a donné cet exemple. Il est bon parce qu'il peut, être consommé. Hein. Il est bon parce qu'il peut être consommé. Et le Seigneur, eh bien, désire aussi nous consommer. Et il faut que nous puissions aussi nous laisser consommer, que nous ne soyons pas de ces vieilles rascasses épineuses, hein, pleines d'arêtes, qu'on a toutes les peines du monde à tirer une bouchée sans risquer de s'étouffer avec une arête, mais que nous puissions offrir nos corps et nos âmes au Seigneur, comme il est écrit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. C'est comme ça aussi que les cœurs pourront être réellement touchés par l'Évangile, lorsqu'ils auront cette démonstration sous les yeux. Tout à la fin du premier siècle de notre ère, il y a eu une terrible épidémie de peste qui a ravagé l'Afrique du Nord, et en particulier la ville de Carthage. Et là, dans cette ville, vous aviez une majorité de païens, et vous aviez quand même des chrétiens, il y a quand même des gens, pas mal de chrétiens, de personnes qui s'étaient converties. Et parmi tous ceux qui étaient restés dans leur vaine croyance païenne, eh bien, tous ceux qui l'ont pu se sont sauvés. Hein, se sont sauvés devant la peste, riches ou pauvres, sont partis le plus loin possible, sans aucun souci, des membres de leur famille qui étaient malades à la mort. Ils les ont laissés abandonner. Mais cependant, les Carthaginois qui avaient cru à Christ et dont la vie a été transformée par l'annonce de l'Évangile, eux, ils sont restés. Ils ont recueilli les malades, ils les ont soignés. Ils ont enseveli les victimes de l'épidémie sans s'inquiéter de savoir s'ils étaient païens ou chrétiens. Et lorsque la peste a cessé, on a vu revenir les fugitifs. Et ils ont vu ce que les chrétiens avaient fait à ce moment-là. Et tous ont reconnu que les chrétiens aimaient aussi les païens et que leur amour était fort comme la mort, hein, dans la circonstance-là. Et c'est ainsi que la haine et l'ignorance de beaucoup de ces païens orgueilleux a été vaincue. Hein, beaucoup se sont convertis. Les véritables chrétiens, ils vivent de cette vie nouvelle que le Seigneur leur a donnée. Et leur conduite doit être un sujet d'étonnement, un sujet de surprise aux yeux de ceux qui les observent. Et leur amour pratique doit être un moyen de nourrir les cœurs, de nourrir les âmes, de les toucher. Et c'est pour ça que lorsque nous nous souvenons du Seigneur Jésus qui s'est offert pour nous, il s'est laissé manger pour nous, nous célébrons ce souvenir et il est marqué nous aussi. Nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est à cela qu'on reconnaît aussi le bon poisson du mauvais. Et si je poursuis, me voici maintenant dans Matthieu chapitre 22. C'est la parabole du festin des noces donc, que Seigneur Jésus a donné. Et là aussi, les choses sont extrêmement claires dans la bouche de notre Sauveur. Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça, c'est une image de tout ce que Dieu a fait envers Israël. Il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé les prophètes pour les inviter à venir donc au festin, etc. Et puis comme ils n'ont pas voulu, comme ils ont outragé les serviteurs, comme ils en ont tué les prophètes, alors eh bien, il a envoyé son jugement contre eux. Il envoie son jugement quand même. Et alors voyez la suite maintenant. Ça nous concerne plus spécialement. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Voilà, ça nous concerne ça. Et la salle des noces fut remplie de convives. Alléluia. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà la parabole du festin de noces. Ces invités dont il est question là, ce sont des chrétiens, ceux qui sont entrés. Et pourquoi cet homme a-t-il été jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents? Parce qu'il n'a pas revêtu la robe de justice que le maître exigeait. Et nous connaissons seulement qu'il exigeait, mais qu'il donnait. Hein? Il l'a donné, mais il n'a pas voulu. Il a voulu faire, non pas ce que le maître de maison voulait, mais ce qu'il voulait lui-même. C'est-à-dire, il a bien voulu entrer dans la salle du festin, mais il n'a pas voulu faire la suite. Il a accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il ne s'est pas revêtu du fin lin blanc, juste, pur, qui sont les œuvres justes des saints. Il a mis en œuvre la première partie d'Éphésiens 2, versets 8 à 10, mais pas la deuxième. C'est mon passage de conversion, ça, que je vous répète. La première partie, la voici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la première partie. Ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est la réception du salut par la foi, sans mérite de notre part. Et après, vous avez la deuxième, qui est reliée à la première par le petit mot de la petite conjonction de coordination, car. Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, plus littéralement, afin que nous y marchions. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Vous ne pouvez pas séparer les deux parties. Ça va ensemble. Il faut qu'il puisse en être ainsi dans nos propres vies. C'est quand même cela aussi, cette grande, cette précieuse réalité-là. Vous savez, quand j'étais à l'adolescence, mon père m'envoyait travailler à la campagne l'été. Pas tout l'été, mais une partie quand même. Et c'est la période de la moisson. Vous savez, la période de la moisson, c'est... ça turbine, hein ? ça turbine chez les paysans. Moi, à l'époque, je me souviens, bon, aujourd'hui, il y a des machines qui sont encore plus performantes, mais à l'époque, ben, ça y allait. Hein. Il n'y avait pas le temps de faire la grasse matinée. C'était les tracteurs étaient dehors, les machines étaient sorties, et puis ça y allait. C'était le moment. On avait droit à une petite sieste pour se reposer. Mais la sieste était là pour se reposer, pour reprendre des forces, pour continuer après. Hein. C'était ça la nécessité. Et je dirais que c'est comme ça. Les temps ont changé peut-être pour certaines choses. En tout cas, c'était une mobilisation générale. Et celui qui essayait de se défiler, ben, il a été considéré un peu comme un déserteur. Et chaque métier contient ses coups de bourre. Hein. Le comptable, ben, par exemple, c'est la période des bilans. Le cuisinier, c'est comme on dit, c'est le coup de feu. Hein. Donc, ça aussi, ça arrive. Et faire les choses quand elles doivent être faites, c'est un des grands principes de la gestion du temps. Et c'est aussi ce que le Seigneur nous dit. C'est pas quand on sera mort qu'il faudra commencer à penser à évangéliser. C'est pas quand on sera au ciel. Le Seigneur nous laisse sur cette terre pour quoi faire ? Il nous laisse sur cette terre pour annoncer l'Évangile et pour le glorifier. C'est la raison principale pour laquelle le Seigneur nous laisse là. Sinon, il faudrait mieux qu'il nous prenne tout de suite, n'est-il pas vrai ? Donc voilà. Cette réalité-là, et nous la voyons. Le salut par la grâce seul, c'est une vérité de base de l'Évangile, mais une base tout aussi solide. Ce sont les œuvres qui suivent, que le Seigneur a préparées d'avance, et l'apôtre Jacques ne peut que se poser la question de la réalité d'une foi qui n'a pas d'œuvre manifeste en conséquence de cette foi. C'est une chose absolument nécessaire et salutaire pour chacun. Alors, eh bien, nous pouvons venir à Jésus. D'autant plus que les œuvres qu'il prépare pour nous, c'est vraiment le meilleur pour notre existence. Vous n'aurez pas meilleur comme plan de carrière et comme plan de vie que de faire ce que Jésus a préparé pour vous. Vous pouvez vous imaginer la meilleure réussite que vous aurez, mais ce ne sera rien en comparaison de ce qui se produira si vous donnez votre vie à Jésus pour le suivre et faire sa volonté. Amen. Amen. Matthieu chapitre 24. Alors là, nous sommes dans Jésus qui fait son récit du mont des Oliviers, enfin son discours du mont des Oliviers, et qui parle donc des temps de la fin, ça concerne les temps de la fin. Et nous lisons au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous voyez là qu'il est question d'un serviteur qui est jeté, un serviteur qui est jeté dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas tenu prêt, parce qu'il n'a pas donné la nourriture au temps convenable à ceux qui lui étaient confiés, parce qu'il a battu ses compagnons, dit lui-même au verset 49, parce qu'il a mangé et bu avec les ivrognes, parce qu'il s'est dit « mon maître tarde à venir, donc je peux me laisser aller », parce qu'il a vécu comme les gens de l'époque de Noé. Or, les gens de l'époque de Noé, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? On dirait beaucoup de choses, mais dans ce que Jésus dit, il n'y a pas des choses qu'on puisse fondamentalement reprocher à quelqu'un. Puisque Jésus dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants. Il n'y a aucun mal à faire ces choses-là. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils faisaient ça complètement en dehors de Dieu. C'est que leur vie était complètement en dehors de Dieu. Complètement. Ils n'avaient aucun attachement à Dieu, aucune préoccupation de Dieu, aucune recherche de la volonté de Dieu. Et ça, c'était leur problème. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, à quoi il nous faut prendre garde. Pourquoi ? Eh bien, parce que là aussi, eh bien, nous sommes appelés à donner la nourriture au temps convenable à ceux qui nous sont confiés, en spécialement la nourriture spirituelle, une parole de salut, une parole d'amour, de réconfort. Et là aussi, c'est vrai, il y a bien des façons de battre ses compagnons de service. On peut le faire beaucoup avec la langue aussi. Alors, eh bien, il faut au contraire que nous combattions le mal par le bien, en ayant des paroles encourageantes, des paroles fortifiantes, des paroles positives, hein, des paroles de vérité, de bonté. Voilà, et le péché des gens à l'époque de Noé, eh bien, ayons à cœur de suivre le Seigneur, de chercher sa volonté. Et le Seigneur, à ce moment-là, eh bien, va encore puissamment nous soutenir pour y marcher, et y marcher de la meilleure manière, y marcher d'une façon qu'il pourra bénir. Un peu plus loin, dans ce même discours du Mont des Oliviers, Jésus revient encore avec cette expression dans la parabole des talents. Nous sommes au chapitre 25 et au verset 14, où nous lisons « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et vous remarquez que la récompense, l'appréciation du maître, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de fidélité. Les 2 ont été fidèles, chacun dans son échelle. Et chacun reçoit exactement la même appréciation, parce que ce que Dieu considère, c'est la fidélité. La fidélité dans ce qu'il nous confie. La fidélité dans ce qu'on a à gérer. Et après, je continue. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ce maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi cet homme subit-il ce terrible sort ? Parce qu'il a été méchant, comme il dit au verset 26, parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'a pas fait valoir son talent, parce qu'il accuse le Seigneur. D'ailleurs, le mot méchant sera encore plus exactement traduit par avare et mesquin dans ce contexte-là. Vous savez, il ne faut pas qu'on accuse Dieu. Il ne faut pas qu'on ait une doctrine qui accuse Dieu. Aujourd'hui, vous avez des doctrines, vous avez la doctrine par exemple de la prédestination absolue, qui accuse Dieu. Parce qu'elle dit que Dieu a tout fait d'avance, donc ça veut dire que certains d'avance sont prévus pour le salut et d'autres d'avance sont prévus pour la perdition. Et ça, c'est impensable. Et puis en plus, ça casse le ressort de l'évangélisation. Pourquoi ? Parce que si tout est fait d'avance, dites-moi, qu'on évangélise ou qu'on n'évangélise pas, le résultat sera le même. Qu'on soit fidèle ou qu'on ne soit pas fidèle, le résultat sera le même parce que tout est déjà décidé d'avance. Ça casse toute la doctrine de l'obéissance à la parole de Dieu, ça casse toute la doctrine par laquelle Dieu nous appelle à nous engager pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas avoir une doctrine qui accuse Dieu. Et vous savez, les hommes, ils se forgent des doctrines comme ça pour excuser leurs propres manquements. C'est ça le réel problème. Hein, donc, alors, eh bien, que nous puissions être de ceux qui mettent leurs talents en œuvre pour Dieu. Vous savez, si vous mettez vos talents en œuvre pour le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que Dieu va vous donner une capacité à développer vos talents. Il va même vous donner d'autres talents. Il y a d'autres choses qui vont être, qui vont se vérifier. Vous avez certainement entendu parler de Léonard de Vinci, qui non seulement était un grand artiste, mais un génie dans divers domaines, plus qu'aucun autre savant de son temps. Et ses carnets, donc, nous montrent qu'il avait un esprit en avance de plusieurs siècles sur son époque. Il a imaginé des sous-marins, des hélicoptères, plusieurs autres inventions modernes. Et voilà son secret, je vais vous le dire. Dans un de ses carnets, on a trouvé son secret. Voilà ce qu'il dit. « Le fer rouille lorsqu'il n'est plus utilisé. L'eau qui stagne perd sa pureté et gèle par temps froid. De même, l'esprit inactif perd sa force d'imaginer. » L'esprit inactif perd sa force d'imaginer. Cet homme-là, son désir d'apprendre l'a poussé toujours plus loin. Et jusqu'au dernier jour, il n'a pas cessé de consigner ses découvertes dans ses fameux carnets. Et ça, ça nous parle, vous savez. Il est important que nous puissions rester dans cette disposition-là, dans cette bonne disposition, et que ces talents que Dieu nous a confiés, eh bien, nous puissions nous mettre en œuvre pour les faire valoir. Et si nous les faisons valoir, que nous puissions continuer à le faire, et nous verrons que Dieu pourra développer en nous d'autres possibilités. Dieu a manifesté encore d'autres talents, parce que c'est son désir qu'il puisse en être ainsi pour les siens. Amen. Amen. Alors, je ne suis pas en avance. Donc, j'en suis à mon... Non, c'était mon sixième texte. Voici le septième, voici le dernier, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 22, ce que nous disions tout à l'heure, au début. Et là, voici ce qui est marqué. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues !» Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Oh. Des pleurs et des grincements de dents pour qui ? Pour des gens qui chercheront à entrer par la porte étroite, nous est-il dit, pour des gens qui appellent Christ Seigneur, Seigneur, pour des gens qui ont mangé et bu devant lui, donc c'est une allusion à la Sainte Cène, des gens qui ont connu son enseignement, tu as enseigné dans nos rues, nous a-t-il dit. Et dans l'évangile de Matthieu, le texte parallèle, nous dit même qui ont fait des miracles en son nom et qui ont prophétisé en son nom. Vous voyez, c'est impressionnant. Et pourtant, Jésus dit qu'il ne sait pas d'où ils sont. Jésus dit qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Jésus dit qu'ils sont de ceux qui ne se sont pas efforcés d'entrer dans le royaume. Traduction littérale, agonisez-vous d'entrer dans le royaume des cieux. Voyez-vous, ce n'est même pas du français, mais c'est pour aider à comprendre. Vous savez, on ne peut pas empêcher. Si on veut vraiment se tourner vers le Seigneur, on aura des luttes et on aura des combats. Vous ne l'empêcherez pas. Si quelqu'un me dit, moi je n'ai pas de lutte et je n'ai pas de combat, je me pose des questions. Hein, c'est quelque chose. Après, on ne va pas les chercher, on est d'accord. Hein. Après, quelqu'un me dira, mais c'est forcé d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est un salut à consacrer par ses propres efforts. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit les choses très, très, très clairement. C'est vrai qu'il y a un engagement à avoir, il y a des efforts à faire. Ce n'est pas des efforts sur lesquels on s'appuie, mais c'est la foi. C'est la foi qui se met en œuvre. Et se met en œuvre et nous fait entrer dans le repos de Dieu. Vous savez, le repos de Dieu, dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, je dirais, c'est un petit peu comme l'œil du typhon, vous savez. Le typhon, c'est un endroit qui est calme, il y a un calme plat quasiment, au milieu de ce qu'on appelle l'œil du typhon, et tout autour, vous avez des vents terribles, des vents puissants. Et c'est ce repos de la foi dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Et s'il y a besoin de force, nous avons le Tout-Puissant pour nous fortifier. Et si nous sommes en agonie, un ange du Seigneur ne manquera pas aussi de nous fortifier. Et si nous nous confions en lui, il nous donnera tout ce qui est nécessaire. Je puis tout, non par mes propres forces, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Voilà le secret et voilà la réalité. Alors en conclusion, rappelons-nous, oui, que c'est Jésus, parmi tous les auteurs bibliques qui ont été cités dans l'Écriture, c'est celui qui de loin le parle le plus de la perdition éternelle. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime le plus en réalité. Et c'est parce qu'il veut véritablement tout faire pour attirer notre attention, pour que nous le prenions à cœur et pour que nous l'évitions. Et que nous fassions aussi les choix que nous devons faire. Un jour, pour conclure maintenant, un homme animait, un conférencier animait un séminaire sur la gestion du temps. La gestion du temps. Alors, pour illustrer son propos, avec tout son auditoire, là, tous ses étudiants, il a pris un pot en verre de 5 litres et il l'a rempli de pierre de la taille d'un point. Puis, il a demandé à sa classe, est-ce que le pot est plein ? Alors, certains étudiants ont répondu, oui. Alors, il a souri et il a sorti de sous son bureau, là, il a sorti des graviers qu'il a mis dans le pot encore. Et puis à nouveau, il a reposé la même question. Et là, silence, hein. Il était plus prudent pour répondre. Alors il a poursuivi en ajoutant du sable qui s'est enfilé entre les graviers. Et cette fois-ci, le pot semblait plein. Certains ont dit oui. Alors il a sorti une cruche d'eau. Et puis il a encore vidé sa cruche. Une partie de sa cruche en tout cas. Il restait encore de la place pour l'eau. Alors il a posé une dernière question. Que nous enseigne cette démonstration ? Qu'est-ce que j'ai voulu vous démontrer ou vous rappeler là ? Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, vous avez voulu nous faire comprendre pour la gestion du temps que si on est attentif, il y aura toujours de la place dans notre emploi du temps pour une activité supplémentaire. Alors cet homme a dit, non, ce n'est pas ça que j'ai voulu vous montrer. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier dans le pot, vous ne les mettrez jamais. Si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier dans le pot, vous ne les mettrez jamais. Ça veut dire que si vous ne mettez pas les priorités spirituelles en premier dans votre vie, vous ne les mettrez jamais. Parce que le monde va remplir les choses, le diable va remplir les choses, notre propre nature rebelle va remplir les choses. C'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre ces pierres solides de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, à la première place dans notre vie. Et lorsque nous faisons ainsi, nous n'aurons jamais à nous en repentir. Au contraire, nous ne pourrons que nous en réjouir et bénir notre Seigneur qui est fidèle et qui saura se montrer fidèle aussi. Gloire à son nom. Amen. Amen. Te remercions notre Sauveur et notre Dieu de ce qu'en ce jour encore, tu es le Dieu tout-puissant et fidèle. Tu es encore le Dieu agissant, Seigneur. Tu es encore celui qui accomplit ton œuvre pour les tiens. Nous sommes dans cette réalité d'un combat spirituel continu. Nous ne devons pas nous faire des illusions à ce sujet. Nous sommes sortis du monde des bisounours depuis longtemps. Nous sommes dans le vrai monde. Et dans ce vrai monde, il y a ce combat spirituel qui est là. Et nous avons à nous engager, soit d'un côté, soit de l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre entre les deux. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'encore, tu es celui qui nous montre ce précieux et magnifique exemple. Et non seulement tu nous montres cet exemple, mais tu nous assures de ton soutien. Tu nous assures de ta puissance pour nous fortifier, pour nous encourager. Tu nous assures de pourvoir à nos besoins. Tu nous assures vraiment d'accomplir toutes tes bonnes promesses. Et chaque fois que nous confions en toi, chaque fois nous avons l'occasion de l'expérimenter. C'est pour ça, Seigneur, que nous te bénissons encore maintenant. Et merci parce que tu nous aides, chacun d'entre nous, à nous attacher à toi, nous accrocher à toi, à tenir ferme, Seigneur, à faire les choix que nous avons à prendre, à mettre les priorités là où elles doivent l'être. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore, par ta grâce et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia.